Chapitre 2
Vive Mirabeau, fuir, 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 les funérailles. Mirabeau était sur son lit, il avait repris connaissance. Les débris du souper, les plats, les fleurs étaient là, témoins aussi accusateurs que le son au fond d'un vase, les restes du poison près du lit d'un suicidé. Gilbert s'avança vivement vers lui et respira en le voyant. « Ah, dit-il, il n'est pas encore aussi mal que je le craignais. » Mirabeau sourit. « Vous croyez, docteur, dit-il. » Et il secoua la tête en homme qui pense connaître son état au moins aussi bien que le docteur qui, parfois, veut se tromper lui-même afin de mieux tromper les autres. Cette fois, Gilbert ne s'arrêta point aux diagnostics extérieurs. Il tâta le pouls. Le pouls était vite et élevé. Il regarda la langue était pâteuse et amère. Il s'enquit de l'état de la tête était lourde et douloureuse. Un commencement de froid se faisait sentir aux extrémités inférieures. Tout à coup, les spasmes que le malade avait éprouvés deux jours auparavant reparurent, se jetant tour à tour sur l'omoplate, sur les clavicules et sur le diaphragme. Le pouls, qui, ainsi que nous l'avons dit, était vite et élevé, devint intermittent et convulsif. Gilbert ordonna les mêmes révulsifs qui avaient amené une première amélioration. Par malheur, soit que le malade n'eût point la force de supporter le douloureux remède, soit qu'il ne voulût point être guéri, au bout d'un quart d'heure, il se plaignit de souffrances si vives sur toute la région synapisée qu'il fallut lui enlever les synapismes. Dès lors, le mieux qui s'était manifesté pendant cette application disparut. Notre intention n'est point de suivre dans toutes leurs variations les phases de la terrible maladie. Seulement, dès le matin de ce jour, le bruit s'en répandit dans la ville, et cette fois plus sérieusement que la veille. Il y avait eu rechute, disait-on, et cette rechute menaçait de mort. C'est alors qu'il fut réellement permis de juger de la place gigantesque que peut occuper un homme au milieu d'une nation. Paris tout entier fut ému, comme au jour où une calamité générale menace à la fois les individus et la population. Toute la journée, comme cela avait déjà eu lieu la veille, la rue fut barrée et gardée par des hommes du peuple, afin que le bruit des voitures ne parvînt pas jusqu'aux malades. D'heure en heure, les groupes rassemblés sous les fenêtres demandaient des nouvelles, des bulletins étaient remis, qui à l'instant même circulaient de la rue de la Chaussée-d'Antin aux extrémités de Paris. La porte était assiégée par une foule de citoyens de tous les états, de toutes les opinions, comme si chaque parti, si opposé qu'il fût aux autres, eût eu quelque chose à perdre en perdant Mirabeau. Pendant ce temps, les amis, les parents et les connaissances particulières du grand orateur remplissaient les cours, les vestibules et l'appartement d'en bas, sans que lui-même eût l'idée de cet encombrement. Au reste, peu de paroles avaient été échangées entre Mirabeau et le docteur Gilbert. « Décidément, vous voulez donc mourir ?» avait dit le docteur. « À quoi bon vivre ?» avait répondu Mirabeau. Et Gilbert, s'étant rappelé les engagements pris par Mirabeau envers la reine et les ingratitudes de celle-ci, Gilbert n'avait pas insisté autrement, se promettant à lui-même de faire jusqu'au bout son devoir de médecin, mais sachant d'avance qu'il n'était pas un dieu pour lutter contre l'impossible. Le soir de ce premier jour de la rechute, la Société des Jacobins envoya, pour s'informer de la santé de son ex-président, une députation, à la tête de laquelle était Barnave. On avait voulu adjoindre à Barnave les deux Lamettes, mais ceux-ci avaient refusé. Lorsque Mirabeau fut instruit de cette circonstance, « Ah, dit-il, je savais bien que c'était des lâches, mais je ne savais pas que ce fussent des imbéciles. » Pendant 24 heures, le docteur Gilbert ne quitta pas un instant Mirabeau. Le mercredi soir, vers 11 heures, il était assez bien pour que Gilbert consentît à passer dans une chambre voisine afin d'y prendre quelques heures de repos. Avant de se coucher, le docteur ordonna qu'à la moindre réapparition des accidents, on vint l'avertir à l'instant même. Au point du jour, il se réveilla. Personne n'avait troublé son sommeil, et cependant il se leva inquiet. Il lui semblait impossible qu'un mieux se fût soutenu ainsi, sans un accident quelconque. En effet, en descendant, Teich annonça au docteur, avec des larmes plein les yeux et plein la voix, que Mirabeau était au plus mal, mais qu'il avait défendu quelque souffrance qu'il eût éprouvée que l'on réveilla le docteur Gilbert. Et pourtant, le malade avait dû cruellement souffrir. Le pouls avait repris le caractère le plus effrayant. Les douleurs s'étaient développées avec férocité. Enfin, les étouffements et les spasmes étaient revenus. Plusieurs fois, et Teich avait attribué cela à un commencement de délire, le malade avait prononcé le nom de la reine. « Les ingrats, avait-il dit, ils n'ont même pas fait demander de mes nouvelles. » Puis, comme se parlant à lui-même, « Je m'étonne bien, avait-il ajouté, ce qu'elle dira quand elle apprendra demain ou après-demain que je suis mort. » Gilbert pensa que tout allait dépendre de la crise qui se préparait. Aussi, se disposant à lutter vigoureusement contre la maladie, il ordonna une application de sangsues à la poitrine. Mais, comme si elles eussent été complices du moribond, les sangsues mordirent mal. On les remplaça par une seconde saignée aux pieds et par des pilules de musc. L'accès dura 8 heures. Pendant 8 heures, comme un habile duelliste, Gilbert fit, pour ainsi dire, assaut avec la mort, parant chaque coup qu'elle portait, allant au-devant de quelques-uns, mais touché quelquefois aussi par elle. Enfin, au bout de 8 heures, la fièvre tomba, la mort battit en retraite, mais comme un tigre qui fuit pour revenir, elle imprima sa griffe terrible sur le visage du malade. Gilbert demeura debout et les bras croisés devant ce lit où venait de s'accomplir la terrible lutte. Il était trop avant dans les secrets de l'art, non seulement pour conserver quelque espoir, mais même pour douter encore. Mirabeau était perdu. Et dans le cadavre étendu devant ses yeux, malgré un reste d'existence, il lui était impossible de voir Mirabeau vivant. À partir de ce moment, chose étrange, le malade et Gilbert, d'un commun accord et comme frappés d'une même idée, parlèrent de Mirabeau ainsi que d'un homme qui avait été, mais qui avait cessé d'être. À partir de ce moment aussi, la physionomie de Mirabeau prit ce caractère de solennité qui appartient essentiellement à l'agonie des grands hommes. Sa voix devint lente, grave, presque prophétique. Il y eut dès lors dans sa parole quelque chose de plus sévère, de plus profond, de plus vaste. Dans ses sentiments, quelque chose de plus affectueux, de plus abandonné, de plus sublime. On lui annonça qu'un jeune homme, qui ne l'avait vu qu'une fois et qui ne voulait pas dire qui il était, insistait pour entrer. Il se retourna du côté de Gilbert comme pour lui demander la permission de recevoir ce jeune homme. Gilbert le comprit. « Faites entrer, » dit-il à Teich. Teich ouvrit la porte. Un jeune homme de 19 à 20 ans parut sur le seuil, s'avança lentement, s'agenouilla devant le lit de Mirabeau, prit sa main et la baisa en laissant échapper un sanglot. Mirabeau semblait chercher dans sa mémoire un vague souvenir. « Ah, dit-il tout à coup, je vous reconnais, vous êtes le jeune homme d'Argenteuil. »« Mon Dieu, soyez béni, dit le jeune homme, voilà tout ce que je vous demandais. » Et se levant, en appuyant ses deux mains sur ses yeux, il sortit. Quelques secondes après, Teich entra, tenant à la main un billet que le jeune homme avait écrit dans l'antichambre. Il contenait ces simples paroles. « En baisant la main de Monsieur de Mirabeau à Argenteuil, je lui ai dit que j'étais prêt à mourir pour lui. Je viens acquitter ma parole. J'ai lu hier dans un journal anglais que la transfusion du sang avait, dans un cas pareil à celui où se trouve l'illustre malade, été exécutée avec succès à Londres. Si, pour sauver Monsieur de Mirabeau, la transfusion du sang était jugée utile, j'offre le mien, il est jeune et pur. » Signé Marnet. En lisant ces quelques lignes, Mirabeau ne put retenir ses larmes. Il ordonna qu'on fît entrer le jeune homme, mais, voulant sans doute échapper à cette reconnaissance si bien méritée, celui-ci était parti en laissant sa double adresse à Paris et à Argenteuil. Quelques instants après, Mirabeau consentit à recevoir tout le monde, messieurs de la Marque et Frochot, ses amis, madame du Saillant, sa sœur, madame d'Aragon, sa nièce. Seulement, il refusa de voir un autre médecin que Gilbert, et comme celui-ci insistait, « Non, docteur, dit-il, vous avez eu tous les inconvénients de ma maladie, si vous me guérissez, il faut que vous ayez tout le mérite de la guérison. » De temps en temps, il voulait savoir qui avait pris de ses nouvelles, et quoiqu'il ne demandât point « La reine a-t-elle envoyé du château ?» Gilbert devinait au soupir que poussait le moribond quand il arrivait à la fin de la liste que le nom seul qu'il eût désiré y trouver était justement celui qui ne s'y trouvait pas. Alors, sans parler du roi et de la reine, Mirabeau n'était pas encore assez mourant pour en arriver là. Il se lançait avec une éloquence admirable dans la politique générale, et particulièrement dans celle qui lui suivit vis-à-vis de l'Angleterre, s'il eût été ministre. C'était avec Pitt, surtout, qu'il se fût trouvé heureux de lutter en corps à corps. « Ah, ce Pitt, s'écria-t-il une fois, c'est le ministre des préparatifs. Il gouverne avec ce dont il menace plutôt qu'avec ce qu'il fait. Si j'eusse vécu, je lui eusse donné du chagrin. » De temps en temps, une clameur montait jusqu'aux fenêtres. C'était un triste cri de « Vige Mirabeau !» poussé par le peuple. Cri qui semblait une prière, ou plutôt une plainte qu'une espérance. Alors Mirabeau écoutait et faisait ouvrir la fenêtre pour que ce bruit rémunérateur de tant de souffrances endurées arrivât jusqu'à lui. Pendant quelques secondes, il demeurait les mains et les oreilles tendues, aspirant à lui et comme absorbant en lui toute cette rumeur. Puis il murmurait « Ah, mon bon peuple, peuple calomnié, injurié, méprisé comme moi !» Il est juste que ce soit eux qui m'oublient et toi qui me récompense. La nuit arriva. Gilbert ne voulut point quitter le malade. Il fit approcher du lit la chaise longue et se coucha dessus. Mirabeau le laissa faire. Depuis qu'il était sûr de mourir, il semblait ne plus craindre son médecin. Dès que le jour parut, il fit ouvrir les fenêtres. « Mon cher docteur, dit-il à Gilbert, c'est aujourd'hui que je mourrai. » Quand on en est où je suis, on n'a plus qu'à se parfumer et à se couronner de fleurs, afin d'entrer le plus agréablement possible dans le sommeil dont on ne se réveille plus. Ai-je la permission de faire ce que je voudrais ? Gilbert lui fit signe qu'il était parfaitement le maître. Alors il appela les deux domestiques. « Jean, dit-il, ayez-moi les plus belles fleurs que vous pourrez trouver, tandis que Taïche va se charger, lui, de me faire le plus beau possible. » Jean sembla demander des yeux la permission à Gilbert, qui, de la tête, fit signe que oui. Il sortit. Quant à Taïche, qui avait été fort malade la veille, il commença à raser et à friser son maître. « À propos, lui dit Mirabeau, tu étais malade hier, mon pauvre Taïche, comment vas-tu aujourd'hui ?» « Oh, très bien, mon cher maître, répondit l'honnête serviteur, et je vous souhaite d'être à ma place. »« Eh bien, moi, répondit Mirabeau en riant, pour peu que tu tiennes à la vie, je ne te souhaite pas d'être à la mienne. » En ce moment, un coup de canon retentit. D'où venait-il? On n'en sut jamais rien. Mirabeau tressaillit. « Oh, dit-il en se redressant, sont-ce déjà les funérailles d'Achille ?» À peine Jean, vers lequel tout le monde s'était précipité à sa sortie de l'hôtel afin d'avoir des nouvelles de l'illustre malade, eut-il dit qu'il allait chercher des fleurs, que des hommes coururent par les rues en criant « Des fleurs pour monsieur de Mirabeau !» et que toutes les portes s'ouvrirent, chacun offrant ce qu'il en avait, soit dans ses appartements, soit dans ses serres, de sorte qu'en moins d'un quart d'heure, l'hôtel fut encombré des fleurs les plus rares. À 9 heures du matin, la chambre de Mirabeau était transformée en un véritable parterre. En ce moment, Taïche venait de lui achever sa toilette. « Mon cher docteur, dit Mirabeau, je vous demande un quart d'heure pour faire mes adieux à quelqu'un qui doit quitter l'hôtel avant moi. Si on voulait insulter cette personne, je vous la recommande. » Gilbert comprit. « Eh bien, dit-il, je vais vous laisser. » « Oui, mais vous attendrez dans la chambre à côté. Cette personne, une fois sortie, vous ne me quitterez plus jusqu'à ma mort. » Gilbert fit un signe affirmatif. Donnez-moi votre parole, dit Mirabeau. Gilbert la donna en balbutiant. Cet homme stoïque était tout étonné de trouver des larmes, lui qui croyait, à force de philosophie, être arrivé à l'insensibilité. Et puis il s'avança vers la porte. Mirabeau l'arrêta. « Avant de sortir, dit-il, ouvrez mon secrétaire et donnez-moi une petite cassette qui s'y trouve. » Gilbert fit ce que désirait Mirabeau. Cette cassette était lourde. Gilbert jugea qu'elle devait être pleine d'or. Mirabeau lui fit signe de la poser sur la table de nuit, puis lui tendit la main. « Vous aurez la bonté de m'envoyer Jean, dit-il. « Jean, vous entendez bien, pas Tèche, il me fatigue d'appeler ou de sonner. » Gilbert sortit. Jean attendait dans la chambre voisine, et par la même ouverture qui donnait sortie à Gilbert, il entra. Derrière Jean, Gilbert entendit la porte se refermer au verrou. La demi-heure qui suivit fut employée par Gilbert à donner des nouvelles du malade à tous ceux qui encombraient la maison. Les nouvelles étaient désespérées. Il ne cacha point à toute cette foule que Mirabeau ne passerait sans doute point la journée. Une voiture s'arrêta devant la porte de l'hôtel. Un instant, il eut l'idée que c'était une voiture de la cour qu'on avait, par considération, laissée approcher, malgré la défense générale. Il courut à la fenêtre. C'eût été une si douce consolation pour le mourant de savoir que la reine s'occupait de lui. C'était une simple voiture de place que Jean venait d'aller chercher. Le docteur devina pour qui. En effet, quelques minutes après, Jean sortit, conduisant une femme voilée par une grande mante. Cette femme monta dans la voiture. Devant cette voiture, sans s'inquiéter quelle était cette femme, la foule s'écarta respectueusement. Jean rentra. Un instant après, la porte de la chambre de Mirabeau se rouvrit, et l'on entendit la voix affaiblie du malade qui demandait le docteur. Gilbert courut à lui. « Tenez, dit Mirabeau, remettez cette cassette à sa place, mon cher docteur. » Puis, comme celui-ci semblait étonné de la trouver aussi lourde qu'auparavant, « Oui, n'est-ce pas, dit Mirabeau, c'est curieux. Où diable le désintéressement va-t-il se nicher ?» Et revenant près du lit, Gilbert trouva à terre un mouchoir brodé et tout garni de dentelles. Il était trempé de larmes. « Ah, dit-il à Mirabeau, elle n'a rien emporté, mais elle a laissé quelque chose. » Mirabeau prit le mouchoir et, le sentant tout humide, il l'appliqua sur son front. « Ah, murmura-t-il, il n'y a donc qu'elle qui n'a pas de cœur. » Et il retomba sur son lit, les yeux fermés, de sorte qu'on eût pu le croire évanoui ou mort, sans le râle de sa poitrine qui indiquait qu'il était seulement en train de mourir. En effet, à partir de ce moment, les quelques heures que vécut encore Mirabeau ne furent plus qu'une agonie. Gilbert n'en tint pas moins la promesse donnée et resta attaché à son lit jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, si douloureux qu'il soit, c'est toujours un grand enseignement pour le médecin et le philosophe que le spectacle de cette dernière lutte entre la matière et l'âme. Plus le génie est grand, plus il est curieux d'étudier comment ce génie soutient le combat contre la mort qui doit finir par le dompter. Puis l'âme du docteur trouvait encore à la vue de ce grand homme expirant une autre source de réflexion sombre. Pourquoi Mirabeau mourait-il, lui, l'homme au tempérament athlétique, à la constitution herculéenne? N'était-ce point parce qu'il avait étendu la main pour soutenir cette monarchie qui allait croulant? N'était-ce point parce que s'était appuyée un instant à son bras cette femme de malheur qu'on appelait Marie-Antoinette? Cagliostro ne lui avait-il pas prédit quelque chose de pareil à cette mort à l'endroit de Mirabeau et ces deux êtres étranges qu'il avait rencontrés, l'un tuant la réputation, l'autre tuant la santé du grand orateur de la France devenu le soutien de la monarchie? N'était-il pas pour lui, Gilbert, une preuve que toute chose faisant obstacle devait, comme la Bastille, s'écrouler devant cet homme, ou plutôt devant l'idée qu'il représentait? Pendant que Gilbert était plongé au plus profond de ses pensées, Mirabeau fit un mouvement et ouvrit les yeux. Il essaya de parler, ce fut inutilement. mais loin de paraître affecté par ce nouvel accident, dès qu'il se fut bien assuré que sa langue était muette, il sourit et essaya de faire passer dans ses yeux le sentiment de reconnaissance qu'il éprouvait pour Gilbert et pour ceux dont les soins l'accompagnaient dans cette suprême et dernière étape dont le but était la mort. Cependant, une idée unique semblait le préoccuper. Gilbert pouvait seul la deviner, et la devina. Le malade ne pouvait apprécier la durée de l'évanouissement dont il venait de sortir. Avait-il duré une heure? Avait-il duré un jour? Pendant cette heure ou pendant ce jour, la reine avait-elle demandé de ses nouvelles? On fit monter le registre qui se trouvait en bas, et où chacun, soit qu'il vînt comme messager, soit qu'il vînt pour son propre compte, écrivait son nom. Aucun nom connu pour être de l'intimité royale ne dénonça de ce côté même une sollicitude déguisée. On fit venir Teich et Jean, et on les interrogea. Personne, ni valet de chambre ni huissier, n'était venu. On vit alors Mirabeau tenter un effort suprême pour prononcer encore quelques paroles, un de ces efforts comme dut en faire le fils de Crésus lorsque, voyant son père menacé de mort, il parvint à briser les liens qui enchaînaient sa langue et à crier « Soldat, ne tue pas Crésus !» Il réussit. « Ah ! S'écria-t-il, ils ne savent donc pas que, moi mort, ils sont perdus. J'emporte avec moi le deuil de la monarchie et, sur ma tombe, les factieux s'en partageront les lambeaux. » Gilbert se précipita vers le malade. « Pour un habile médecin, il y a espoir tant qu'il y a de la vie. » D'ailleurs, ne fût-ce que pour permettre à cette bouche éloquente de prononcer encore quelques mots, ne devait-il pas employer toutes les ressources de l'art? Il prit une cuillère et versa quelques gouttes de cette liqueur verdâtre dont une fois déjà il avait donné un flacon à Mirabeau, et, sans la mélanger cette fois avec de l'eau de vie, il l'approcha des lèvres du malade. « Ah, cher docteur, dit celui-ci en souriant, si vous voulez que la liqueur de vie agisse sur moi, donnez-moi la cuillère pleine ou le flacon entier. »« Comment cela ? Demanda Gilbert en regardant fixement Mirabeau. « Croyez-vous, répondit celui-ci, que moi, l'abuseur de tout par excellence, j'ai eu ce trésor de vie entre les mains sans en abuser, non pas ? Je fais décomposer votre liqueur, mon cher Esculape. J'ai appris qu'elle se tirait de la racine du chanvre indien, et alors j'en ai bu, non seulement par goutte, mais encore par cuillerée, non seulement pour vivre, mais encore pour rêver. Malheureux, malheureux, murmura Gilbert, je m'étais bien douté que je vous versais du poison. Doux poison, docteur, grâce auquel j'ai doublé, quadruplé, centuplé, les dernières heures de mon existence, grâce auxquelles, en mourant à 42 ans, j'aurais vécu la vie d'un centenaire, grâce auxquelles enfin j'ai possédé en rêve ce qui m'échappait en réalité, force, richesse, amour. Oh, docteur, docteur, ne vous repentez pas, au contraire, félicitez-vous. Dieu ne m'avait donné que la vie réelle, vie triste, pauvre, décolorée, malheureuse, peu regrettable, et que l'homme devrait toujours être disposé à lui rendre comme un prêt usuraire. Docteur, je ne sais si je dois dire à Dieu merci de la vie, mais je sais que je dois vous dire à vous merci de votre poison. Emplissez donc la cuillère, docteur, et donnez-la-moi. Le docteur fit ce que demandait Mirabeau et lui présenta la liqueur qu'il savoura avec délice. Alors, après quelques secondes de silence, « Ah, docteur, dit-il, comme si, à l'approche de l'éternité, la mort permettait que se soulevât pour lui le voile de l'avenir, bienheureux ceux qui mourront dans cette année 1791 !» Ils n'auront vu de la Révolution que sa face resplendissante et sereine. Jusqu'aujourd'hui, jamais Révolution plus grande n'a coûté moins de sang. C'est que, jusqu'aujourd'hui, elle se fait dans les esprits seulement, et que le moment va venir où elle se fera dans les faits et dans les choses. Peut-être croyez-vous qu'ils vont me regretter là-bas aux Tuileries. Point. Ma mort les débarrasse d'un engagement pris. Avec moi, il leur fallait gouverner d'une certaine façon. Je ne leur étais plus un soutien, je leur étais un obstacle. Elle s'excusait de moi à son frère. « Mirabeau croit qu'il me conseille, lui écrivait-elle, et il ne s'aperçoit pas que je l'amuse. Ah, voilà pourquoi j'aurais voulu que cette femme fût ma maîtresse et non ma reine. Quel beau rôle a joué dans l'histoire, docteur, que celui d'un homme qui soutient d'une main la jeune liberté et de l'autre la vieille monarchie, qui les force à marcher du même pas et vers un seul but, le bonheur du peuple et le respect de la royauté. » Peut-être était-ce impossible, peut-être était-ce un rêve, mais ce rêve, j'en ai la conviction, moi seul pouvais le réaliser. Ce qui me peine, docteur, ce n'est pas de mourir, c'est de mourir incomplet, c'est d'avoir entrepris une œuvre et de comprendre que je ne puis mener cette œuvre à bout. Qui glorifiera mon idée si mon idée est avortée, tronquée, décapitée? Ce que l'on saura de moi, docteur, c'est justement ce qu'il ne faudrait pas que l'on sût, c'est ma vie déréglée, folle, vagabonde. Ce qu'on lira de moi, ce sont mes lettres à Sophie, l'érotica biblionne, la monarchie prussienne, des pamphlets et des livres obscènes. Ce qu'on me reprochera, c'est d'avoir pactisé avec la cour, et l'on me reprochera cela, parce que de ce pacte, il ne sera rien sorti de ce qui devait en sortir. Mon œuvre ne sera qu'un fœtus informe, qu'un monstre auquel manquera la tête. Et cependant, on me jugera, moi, mort à 42 ans, comme si j'avais vécu une vie d'homme. Moi, disparu au milieu d'une tempête, comme si, au lieu d'être obligé de marcher sans cesse sur les flots, c'est-à-dire sur un abîme, j'avais marché sur une grande route solidement pavée de lois, d'ordonnances et de règlements. Docteur, à qui léguerai-je, non pas ma fortune dilapidée, oh, peu importe cela, je n'ai pas d'enfant, mais à qui léguerai-je ma mémoire calomniée, ma mémoire qui pouvait être un jour un héritage à faire honneur à la France, à l'Europe, au monde? Pourquoi aussi vous êtes-vous tant hâté de mourir, répondit tristement Gilbert. Oui, dit Mirabeau, il y a en effet des moments où je me demande cela à moi-même, comme vous me le demandez. Mais écoutez bien ceci, je ne pouvais rien sans elle, et elle n'a pas voulu. Je m'étais engagé comme un sot, j'avais juré comme un imbécile, toujours soumis à ces ailes invisibles de mon cerveau qui emportent le cœur, tandis qu'elle, elle n'avait rien juré, elle n'était engagée à rien. Ainsi donc, tout est pour le mieux, docteur, et si vous voulez me promettre une chose, aucun regret ne troublera plus les quelques heures que j'ai encore à vivre. Et que puis-je vous promettre, mon Dieu? Eh bien, promettez-moi que si mon passage de cette vie à l'autre était trop difficile, trop douloureux, promettez-moi, docteur, et c'est non seulement d'un médecin, mais encore d'un homme, mais encore d'un philosophe. Promettez-moi que vous m'y aiderez. Pourquoi me faites-vous une pareille demande? Ah, je vais vous le dire, c'est que, quoique je sente que l'amour est là, je sens qu'il reste bien de la vie en moi. Je ne meurs pas mort, cher docteur, je meurs vivant, et le dernier pas sera dur à franchir. Le docteur inclina son visage sur celui de Mirabeau. « Je vous ai promis de ne pas vous quitter, mon ami, dit-il, si Dieu, et j'espère encore que cela n'est point, si Dieu a condamné notre vie, eh bien, au moment suprême, laissez à ma profonde tendresse pour vous le soin d'accomplir ce que j'aurai à faire. Si la mort est là, j'y serai aussi. » On eût dit que le malade n'attendait que cette promesse. « Merci, murmura-t-il, et il retomba la tête sur l'oreiller. Cette fois, malgré cette espérance qu'il est du devoir d'un médecin d'infiltrer jusqu'à la dernière goutte dans l'esprit du malade, Gilbert ne douta plus. La dose abondante de haschich que venait de prendre Mirabeau avait pour un instant, comme les secousses de la pile voltaïque, rendu au malade avec la parole, le jeu des muscles, cette vie de la pensée, si on peut dire ça, qui l'accompagne. Mais lorsqu'il cessa de parler, les muscles s'affaissèrent. Cette vie de la pensée s'évanouit, et la mort, déjà empreinte sur son visage depuis la dernière crise, y reparut plus profondément gravée que jamais. Pendant 3 heures, sa main glacée resta entre les mains du docteur Gilbert. Pendant ces 3 heures, c'est-à-dire de 4 à 7 heures, l'agonie fut calme, si calme que l'on put faire entrer tout le monde. On eût cru qu'il dormait. Mais vers 8 heures, Gilbert sentit tressaillir dans les siennes sa main glacée. Le tressaillement était si violent qu'il ne s'y trompa point. « Allons, dit-il, voici l'heure de la lutte, voici la vraie agonie qui commence. » Et en effet, le front du moribond venait de se couvrir de sueur, son œil venait de se rouvrir et avait lancé un éclair. Il fit un mouvement qui indiquait qu'il voulait boire. On s'empressa aussitôt de lui offrir de l'eau, du vin, de l'orangeade, mais il secouait la tête. Ce n'était point là ce qu'il voulait. Il fit signe qu'on lui apporta une plume, de l'encre et du papier. On obéit, autant pour lui obéir, afin que pas une pensée de ce grand génie, même celle du délire, ne fût perdue. Il prit la plume et d'une main ferme traça ces 2 mots, « dormir, mourir ». C'étaient les 2 mots d'Hamlet. Gilbert fit semblant de ne pas comprendre. Mirabeau lâcha la plume, prit sa poitrine à pleine main comme pour la briser, jeta quelques cris inarticulés, reprit la plume, et, faisant un effort surhumain pour commander à la douleur de s'abstenir un instant, il écrivit « Les douleurs sont devenues poignantes, insupportables. Doit-on laisser un ami sur la roue pendant des heures, pendant des jours peut-être, quand on peut lui épargner la torture avec quelques gouttes d'opium ?» Mais le docteur hésitait. Puis, comme il l'avait dit à Mirabeau au moment suprême, il serait là, en face de la mort, mais pour combattre la mort et non pour la seconder. Les douleurs devenaient de plus en plus violentes. Le moribond se roidissait, se tordait les mains, mordait son oreiller. Enfin, elles rompirent les liens de la paralysie. « Oh, les médecins !» s'écria-t-il tout à coup. « N'êtes-vous pas mon médecin et mon ami Gilbert? Ne m'avez-vous pas promis de m'épargner les douleurs d'une pareille mort? Voulez-vous que j'emporte le regret de vous avoir donné ma confiance ?» dit Gilbert. « J'en appelle à votre amitié, j'en appelle à votre honneur. » Et avec un soupir, un gémissement, un cri de douleur, il retomba sur son oreiller. Gilbert à son tour poussa un soupir et, tendant la main à Mirabeau, « C'est bien, dit-il, mon ami, on va vous donner ce que vous demandez. » Et il prit la plume pour écrire une ordonnance qui n'était autre qu'une forte dose de sirop d'iacode dans de l'eau distillée. Mais à peine avait-il écrit le dernier mot que Mirabeau se dressa sur son lit, tendant la main et demandant la plume. Gilbert hésita à la lui donner. Alors la main de l'agonisant, crispée par la mort, se cramponna au papier et d'une écriture à peine lisible, il écrivit « Fuir, fuir, fuir ». Il voulut signer, mais il put tracer tout au plus les 4 premières lettres de son nom et, étendant son bras convulsif vers Gilbert, « Pour elle » murmura-t-il. Et il retomba sur son oreiller, sans mouvement, sans regard, sans souffle. Il était mort. Gilbert s'approcha du lit, le regarda, lui tâta le pouls, lui mit la main sur le cœur, puis se retournant vers les spectateurs de cette scène suprême, « Messieurs, dit-il, Mirabeau ne souffre plus. » Et, posant une dernière fois ses lèvres sur le front du mort, il prit le papier dont lui seul connaissait la destination, le plia religieusement, le mit sur sa poitrine et sortit, ne pensant pas qu'il eût le droit de garder un instant de plus que le temps nécessaire pour aller de la chaussée d'Antin aux Tuileries porter la recommandation de l'illustre trépassé. Quelques secondes après la sortie du docteur de la chambre mortuaire, une grande clameur s'éleva dans la rue. C'était le bruit de la mort de Mirabeau qui commençait à se répandre. Bientôt un sculpteur entra. Il était envoyé par Gilbert pour conserver à la postérité l'image du grand orateur au moment même où, dans sa lutte contre la mort, il venait de succomber. Quelques minutes d'éternité avaient déjà rendu à ce masque la sérénité qu'une âme puissante reflète en quittant le corps sur la physionomie qu'elle a animée. Mirabeau n'est pas mort, Mirabeau semble dormir d'un sommeil plein de vie et de songes riants. La douleur fut immense, universelle. En un instant, elle se répandit du centre à la circonférence, de la rue de la Chaussée-d'Antin aux barrières de Paris. Il était 8h30 du matin. Le peuple jeta une clameur terrible, puis il se chargea de décréter le deuil. Il courut au théâtre, dont il déchira les affiches et dont il ferma les portes. Un bal avait lieu le soir même, dans un hôtel de la rue de la Chaussée-d'Antin. Il envahit l'hôtel, dispersa les danseurs et brisa les instruments des musiciens. La perte qu'elle venait de faire fut annoncée à l'Assemblée nationale par son président. Aussitôt, Barrère monta à la tribune et demanda que l'Assemblée déposât dans le procès-verbal de ce jour funèbre le témoignage des regrets qu'elle donnait à la perte de ce grand homme et insista pour qu'il fût fait, au nom de la patrie, une invitation à tous les membres de l'Assemblée d'assister à ses funérailles. Le lendemain, 3 avril, le département de Paris se présenta à l'Assemblée nationale, demanda et obtint que l'église Sainte-Geneviève fût érigée en panthéon, consacrée à la sépulture des grands hommes, et que le premier Mirabeau y fût inhumé. Consignons ici ce magnifique décret de l'Assemblée. Il est bon qu'on retrouve dans ces livres que les hommes politiques tiennent pour frivoles, parce qu'ils ont le tort d'apprendre l'histoire sous une forme un peu moins lourde que celle qu'emploient les historiens, il est bon, disons-nous, qu'on rencontre le plus souvent possible, et n'importe où, pourvu que ce soit à la portée des yeux, ces décrets d'autant plus grands qu'ils sont spontanément arrachés à l'admiration ou à la reconnaissance du peuple. Voici ce décret dans toute sa pureté. L'Assemblée nationale décrète. Article 1er. Le nouvel édifice de Sainte-Geneviève sera destiné à recevoir les cendres des grands hommes à dater de l'époque de la liberté française. Article 2. Le corps législatif décidera seul à quels hommes cet honneur sera décerné. Article 3. Honoré Riquetti Mirabeau est jugé digne de cet honneur. Article 4. La législature ne pourra pas à l'avenir décerner cet honneur à l'un de ses membres venant de décéder. Il ne pourra être déféré que par la législature suivante. Article 5. Les exceptions qui pourront avoir lieu pour quelques grands hommes morts avant la Révolution ne pourront être faites que par le corps législatif. Article 6. Le directoire du département de Paris sera chargé de mettre promptement l'édifice Sainte-Geneviève en état de remplir sa nouvelle destination et fera graver au-dessus du fronton ces mots « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Article 7. En attendant que la nouvelle église Sainte-Geneviève soit achevée, le corps de Riquetti Mirabeau sera déposé à côté des cendres de Descartes dans le caveau de l'église Sainte-Geneviève. Le lendemain, à 4h de l'après-midi, l'Assemblée nationale tout entière quitta la salle du manège pour se rendre à l'hôtel de Mirabeau. Elle y était attendue par le directeur du département, par tous les ministres et par plus de 100 000 personnes. Mais de ces 100 000 personnes, pas une n'était spécialement venue de la part de la reine. Le cortège se mit en marche. Lafayette marchait en tête, comme commandant général des gardes nationales du royaume. Puis le président de l'Assemblée nationale, Tronchet, entouré royalement des 12 huissiers de la chaîne, puis les ministres, puis l'Assemblée, sans distinction de parti, Sieyès donnant le bras à Charles de Lamethe. Puis, après l'Assemblée, le club des Jacobins, comme une seconde Assemblée nationale, lui était signalé par sa douleur, probablement plus fastueuse que vraie. Il avait décrété 8 jours de deuil et Robespierre, trop pauvre pour faire la dépense d'un habit, en avait loué un, comme il avait déjà fait pour le deuil de Franklin. Puis la population de Paris tout entière, enfermée dans les 2 lignes de garde nationale, montant à plus de 30 000 hommes. Une musique funèbre dans laquelle on entendait pour la première fois 2 instruments inconnus jusqu'alors, le trombone et le tam-tam, marquer le pas à cette foule immense. Ce fut à 8 heures seulement que l'on arriva à Saint-Eustache. L'éloge funèbre fut prononcé par Cerruti. Au dernier mot, 10 000 gardes nationaux qui étaient dans l'église déchargèrent leurs fusils d'un seul coup. L'assemblée, qui ne s'attendait pas à cette décharge, jeta un grand cri. La commotion était si violente que pas un carreau n'était resté intact. On put croire un instant que la voûte du temple allait s'écrouler et que l'église servirait de tombe au cercueil. On se remit en marche au flambeau. L'ombre était descendue et non seulement avait envahi les rues par lesquelles on devait passer, mais encore la plupart des cœurs de ceux qui passaient. La mort de Mirabeau, c'était en effet une obscurité politique. Mirabeau mort, savait-on dans quelle voie on allait entrer? L'habile dompteur n'était plus là pour diriger ces fougueux coursiers qu'on appelle l'ambition et la haine. On sentait qu'il emportait avec lui quelque chose qui désormais manquerait à l'assemblée, l'esprit de paix veillant même au milieu de la guerre, la bonté du cœur cachée sous la violence de l'esprit. Tout le monde avait perdu à cette mort. Les royalistes n'avaient plus d'aiguillon, les révolutionnaires plus de frein. Désormais, le char allait rouler plus rapide et la descente était encore longue. Qui pouvait dire vers quoi on roulait, et si c'était vers le triomphe ou vers l'abîme? On atteignit le Panthéon qu'au milieu de la nuit. Un seul homme avait manqué au cortège, Pétion. Pourquoi Pétion s'était-il abstenu? Il le dit lui-même, le lendemain, à ceux de ses amis qui lui faisaient un reproche de son silence. Il avait lu, disait-il, un plan de conspiration contre-révolutionnaire écrit de la main de Mirabeau. 3 ans après, dans une sombre matinée d'automne, non plus dans la salle du manège, mais dans la salle des Tuileries, quand la Convention, après avoir tué le roi, après avoir tué la reine, après avoir tué les Girondins, après avoir tué les Cordeliers, après avoir tué les Jacobins, après avoir tué les Montagnards, après s'être tuée elle-même, n'eut plus rien de vivant à tuer, elle se mit à tuer les morts. Ce fut alors qu'avec une joie sauvage, elle déclara qu'elle s'était trompée dans le jugement qu'elle avait rendu sur Mirabeau et qu'à ses yeux, le génie ne pouvait faire pardonner à la corruption. Un nouveau décret fut rendu qui excluait Mirabeau du Panthéon. Un huissier vint et, sur le seuil du temple, il fit lecture du décret qui déclarait Mirabeau indigne de partager la sépulture de Voltaire, de Rousseau et de Descartes et qui sommait le gardien de l'église de lui remettre le cadavre. Alors une voix plus terrible que celle qui doit être entendue dans la vallée de Josaphat criait avant l'heure « Panthéon, rends tes morts !» Le Panthéon obéit, le cadavre de Mirabeau fut remis à l'huissier qui fit, il le dit lui-même, conduire et déposer le dit cercueil dans le lieu ordinaire des sépultures. Or le lieu ordinaire des sépultures c'était Clamart, le cimetière des suppliciés. Et sans doute pour rendre encore plus terrible la punition qu'il allait chercher jusque dans la mort, il fut nuitamment et sans cortège aucun conduit et inhumé, sans nul indice du lieu de l'inhumation, sans croix, sans pierre, sans inscription. Seulement plus tard, un vieux fossoyeur, interrogé par un de ces esprits curieux de savoir ce que les autres ignorent, conduisit un soir un homme à travers le cimetière désolé, et s'arrêtant au milieu de l'enceinte et frappant du pied, lui dit « C'est ici ». Puis, comme le curieux insistait pour avoir une certitude, « C'est ici » répéta-t-il, « j'en réponds, car j'ai aidé à le descendre dans sa fosse, et même j'ai manqué d'y rouler, tant était lourd son maudit cercueil de plomb. » Cet homme s'était Naudié. Un jour, il me conduisit aussi à Clamart, frappa du pied au même endroit et me dit à son tour « C'est ici ». Or, voilà plus de 50 ans que les générations qui se sont succédées passent sur cette tombe inconnue de Mirabeau. N'est-ce pas une assez longue expiation pour un crime contestable qui fut bien plus celui des ennemis de Mirabeau que celui de Mirabeau lui-même, et ne serait-il pas temps, à la première occasion, de fouiller cette terre impure dans laquelle il repose, jusqu'à ce qu'on trouve ce cercueil de plomb qui pesait si fort au bras du pauvre fossoyeur et auquel on reconnaîtra le proscrit du Panthéon? Peut-être Mirabeau ne mérite-t-il pas le Panthéon, mais, à coup sûr, beaucoup reposent et reposeront en terre chrétienne qui, plus que lui, mérite l'hégémonie. France, entre l'hégémonie et le Panthéon, une tombe à Mirabeau, avec son nom pour tout épitaphe, avec son buste pour tout ornement, avec l'avenir pour tout juge.